Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Et nous retrouvons notre invité Sébastien Salgado, photographe franco-brésilien. Vous exposez actuellement à Paris dans la galerie Polka des portraits de femmes. Vous vous êtes exprimé au travers de la photographie sur des thèmes qui vous sont chers, tels que la paysannerie, l'écologie, la pauvreté, les migrations et les réfugiés. Vous avez écouté cette chronique politique de Frédéric Saïz et j'aimerais avoir votre chronique politique sur la situation au Brésil. On sait que la situation est extrêmement compliquée. Le président Lula, l'ancien président Lula, est accusé de corruption. L'actuel président par intérim, lui, ne va pas très bien non plus. Quel est votre regard sur cette situation au Brésil, Sébastien Salgado?
Très complexe. On a eu un vrai coup d'État au Brésil, ça fait un an et quelques, n'est-ce pas? Un coup d'État avec une apparence légale, mais complètement illégale.
Donc de Michel Temer.
Michel Temer au pouvoir, c'était avec un appui juridique complètement douteux et un appui massif de l'information de la presse. Donc on a mis en place un gouvernement qui n'était pas élu et on a enlevé un gouvernement qui était légalement élu et qui respectait les institutions d'un pays. Je ne suis pas ni pour un ni pour l'autre, mais le gouvernement antérieur, il respectait les institutions. Je viens de rentrer dans l'Amazonie, je suis en train de faire un travail à long terme avec les tribus amazoniennes, et c'est une catastrophe ce qui se passe aujourd'hui en Amazonie, parce que ces groupes qui ont le pouvoir, ils donnent satisfaction à un groupe économique brésilien que c'est les agro-business, les agro-affaires au Brésil. Le Brésil est devenu le plus grand producteur d'aliments au monde avec un groupe de représentants politiques, de sénateurs, de députés qui représentent un groupe très arriéré politiquement au Brésil. Ils représentent aussi un groupe de gens qui exploitent les mines, qui essayent d'exploiter la forêt. Donc, on est en train de détruire la forêt amazonienne à une vitesse beaucoup plus grande qu'avant. C'est très compliqué parce que les pouvoirs qui étaient au Brésil aussi, on commence à découvrir, pour les partis des travailleurs, que c'était le parti du président Lula, pour pouvoir gouverner au Brésil, avec la complication qu'on a des nombres de partis politiques, c'était nécessaire d'acheter l'appui de ces politiciens. Et pour le faire, on a donné presque toute la richesse d'une nation pour corrompre un groupe de politiciens complètement véreux pour pouvoir gouverner. Donc on est dans un problème sérieux. On aura des élections dans très peu de temps, dans une dizaine de mois. Et j'ai un grand espoir qu'à partir de ce moment, on fera comme les Français ont fait. Vous savez, M. Macron, en arrivant au pouvoir, il a fini avec une gauche qu'on ne pouvait plus avec elle, et avec une droite pire encore. Donc, la France, elle a fait un saut vers l'avant, avec toutes les contestations qu'on puisse avoir, mais elle vit dans une autre phase beaucoup plus moderne, beaucoup plus dynamique et antérieure. J'espère que le Brésil arrivera là.
Que pensez-vous de l'ancien président Lula, Sébastien Salgado?
Sans doute, c'est l'homme qui a plus fait comme un politicien pour le Brésil. Il a intégré dans la classe moyenne, plus de 40 millions de personnes. Et c'est le seul presque président au Brésil qui a permis une vraie distribution de revenus et qui a fait que le pays, pendant cette époque, il était au pouvoir, le pays prend une accélération incroyable, tant du point de vue social qu'économique. Il essaye de revenir au pouvoir aujourd'hui. Il n'y a pas de preuves contre sa corruption. Mais c'est que c'est difficile avec le président Lula qui, pour gouverner, il a permis une énorme corruption au Brésil.
Alors, vous avez décidé d'agir, pas seulement de prendre des photos, même si vos photos ont une force agissante, puisque vous révélez des situations, et notamment vous avez décidé d'agir sur le plan écologique. Qu'est-ce que vous faites et pourquoi la situation, vous venez de l'évoquer en Amazonie, vous paraît particulièrement inquiétante?
L'Amazonie, ça se passe quelque chose de terrible. Vous savez, si vous regardez une carte de l'Amazonie brésilienne, on a perdu, dans les 35 dernières années, 20% des territoires de l'Amazonie. Ce qui reste encore des territoires intouchés, ce sont les réserves indigènes, c'est qu'il y en a beaucoup. À peu près 23% de l'Amazonie, ce sont des réserves indigènes reconnues par l'État, d'une certaine manière très protégées. On a à peu près 25% des parcs nationaux, mais on a 52% des territoires de l'Amazonie qui ce sont des terres de l'État. Et ce sont ces terres qui ont eu une violation profonde de la terre. C'est la dernière portion des forêts tropicales à la planète. Et tous les courants d'humidité, sans aucun doute, les précipitations, les pluies de cette planète, ils sont très réglés par cette immensité de forêts. Cette forêt qui fait à peu près 10 fois la surface de la France métropolitaine. C'est représentatif. Et si on perd cette forêt, on perdra beaucoup du point de vue climatique, du point de vue équilibre des températures, réchauffement global, et les déplacements de toutes ces populations indigènes en Amazonie, c'est incroyable.
Vous avez décidé avec votre femme de procéder à la reforestation. Vous avez créé une ONG et vous agissez pour replanter des arbres. Un travail immense. Comment vous y prenez-vous, Sébastien Salgado?
On a reçu la terre qui était la terre de mes parents. Mes parents devenus vieux, j'ai 7 sœurs. Et donc, au moment où on vendait cette terre, on laissait cette terre dans la famille, mes sœurs. Et mes parents ont pris la décision de donner cette terre à Lélia, ma femme, et à moi. C'était un moment difficile pour moi, parce que je sortais d'un travail que je faisais en Afrique. C'était juste après les génocides de Rwanda, où j'ai vécu, où j'ai participé. J'étais dans une totale détresse psychologique, physique. On reçoit cette terre. On croyait qu'on allait devenir aussi agriculteur. Et quand on voit cette terre, elle était complètement dégradée. On ne pouvait plus rien faire sur cette terre. Une érosion brutale. Et ma femme, Lélia, elle a eu l'idée de reconstituer cette terre écologiquement, de replanter la forêt qui était là-dedans. Et on a commencé à planter. Aujourd'hui, on a planté à peu près 2 500 000 arbres sur cette terre. On a créé aujourd'hui l'institution environnementale la plus grande au Brésil qui travaille à l'agriculture, qui travaille avec les paysans, qui travaille à l'intérieur, qui plante des arbres. On a la plus grande pépinière de notre région, on a une capacité de produire 1 million d'arbres de plus de 100 espèces différentes par année. Et on a commencé la récupération de toutes les sources d'eau de notre vallée. Notre vallée, c'est aussi grande que le Portugal. On calcule que dans une trentaine d'années, on pourra récupérer toutes les sources d'eau. Et on a planté à ce moment plus de 150 millions d'arbres. Et donc, on est dans ce procédé.
Ce qui veut dire que vous vous battez et vous êtes finalement optimiste, alors que vos photos, elles sont toutes en noir et blanc. La plupart, pour ne pas dire la quasi-totalité, avec une faible lumière. Et donc, on a toujours l'impression, y compris lorsque vous avez fait cette série de photos Genesis, avec, donc, comme le nom l'indique, la genèse, beaucoup de photos d'animaux, et on a l'impression que votre photographie, elle est quand même empreinte de pessimisme, Sébastien Salgado.
Non, je ne crois pas qu'elle soit empreinte de pessimisme. Empreinte de pessimisme, c'est notre société. Vous savez, on photographie avec son héritage culturel, son héritage psychologique, son héritage idéologique. Mais j'ai lié ma photographie au moment historique que j'ai vécu. J'essayais de suivre, malgré moi, tout ce que c'était important pour moi. Et donc, quand j'ai photographié les réfugiés, quand j'ai photographié la fin de la première grande révolution industrielle qui a donné origine à un livre qui s'appelle « La main de l'homme », quand j'ai photographié une écologie qui souffre énormément, j'ai photographié notre vérité. C'est notre vérité qui est pleine de pessimisme. Et vous savez, en vivant dans une ville comme Paris, dans un pays riche comme la France, qui a réussi le transfert des revenus de toute la planète vers lui depuis des centaines d'années, on a l'impression que la France, c'est la vérité, et le restant du monde, c'est l'exception. Mais non, ici vit très peu de monde, vous savez. On vit ici 60-65 millions de personnes. Qu'on compare avec les populations des restants du monde, de l'Afrique, de l'Amérique latine, où la condition de vie est très compliquée, très difficile, il ne faut pas juger l'intégralité par l'exception. Ici, c'est l'exception.
Vous avez photographié Paris parce qu'actuellement, vous êtes exposé en compagnie de Marc Riboud qui à photographier Paris. Est-ce que la lumière parisienne vous inspire ?
Oui, Paris, c'est sans aucun doute la plus agréable ville du monde. Les lumières ici sont très très belles, très intéressantes. Et j'ai beaucoup photographié en France, beaucoup. Mais aussi, c'est une France que vous pouvez lui dire que c'est une France pessimiste. Mais ce n'est pas. J'ai photographié beaucoup la France du travail, la construction de la ville nouvelle d'Ivry, la construction de la Défense, la construction des tunnels sous la Manche, les immigrés à la Courneuve, les immigrés d'origine polonaise au nord de la France. Et, mais voilà, c'est aussi l'histoire de ce pays. Une grande histoire, n'est-ce pas? Et faite pour beaucoup de gens qui en ont oublié. En venant ici ce matin, pour vous parler à France Culture, qui me conduisait, c'est un monsieur d'origine tunisienne. Et pour que Paris soit, pour que la France soit, on compte avec énormément de travail qu'on ne sait pas même qu'il existe et que c'est quelquefois pas de travail très drôle de le faire.
Vous aimez photographier ce qui va disparaître. Vous avez beaucoup photographié notamment des travailleurs dans des travaux qui à la fois vont disparaître, ce qui peut poser problème à ces gens-là dont c'était l'emploi, mais quand on voit les conditions de vie dans lesquelles ils travaillent, on se dit que ça n'est pas forcément une mauvaise chose que l'humanité se débarrasse de ces tâches-là.
Non, mais l'humanité se débarrassera va pas se débarrasser de ces tâches. On les maquille, n'est-ce pas? Mais pour que ça existe, il faut le faire. On ne peut pas faire autrement. On compte aujourd'hui avec un grand nombre de gens qui n'ont pas de travail dans un pays comme la France. Mais si on va dans un pays comme le Japon, vous savez, toutes ces tâches qu'aujourd'hui on automatise, qu'on essaye de marginaliser les gens, on n'a pas automatisé pour avoir les pleins emplois. Il faut qu'on pense une économie de plein emploi. Et il ne faut pas penser une économie purement de rentabilité.
Là, je pensais aussi aux photos, par exemple, que vous avez faites de mineurs dans des mines d'or au Brésil.
Ah, celle-là n'existe plus. Et j'ai fait, absolument. Et on est en train, Lélia, ma femme, on travaille ensemble, vient de dessiner un livre sur cette mine d'or. On a réédité les photos. Et c'est étonnant de voir 50 000 hommes, parce qu'il n'y avait pas de femmes, les femmes étaient interdites, pour éviter les bagarres selon la police fédérale du Brésil à cette époque. Et ensemble, dans la condition qu'on a l'impression que ce sont encore les mines des rois Salomon. Et ça existait il y a 30 ans.
Oui, des photos inimaginables pour nos auditeurs qui ne l'ont pas vu, avec une humanité grouillante, avec... À chaque fois qu'on voit l'une de ces photos, on se dit, mais comment est-ce possible ?
Comment est-ce possible? Les jours que j'arrivais au bord de ces immenses trous, que c'était à peu près la taille des stades de football, 50 000 personnes qui travaillaient avec ses mains, il n'y avait pas de machine, avec ces murmures qui sortaient de cette énorme population. Tous les poils de mon corps ont monté, je ne croyais pas que ça pourrait exister. Et c'était là, devant mes yeux.
Sébastien Osalgado, lorsqu'on photographie, et c'est un peu la même chose que dans une interview, il y a l'œil évidemment qui fonctionne, et puis il y a la bouche, la relation que vous réussissez à créer avec la personne que vous photographiez, on le voit chez tous les grands photographes, il y a aussi une exposition Irving Penn actuellement qui a beaucoup photographié les Indiens et les Péruviens. Comment vous faites pour photographier par exemple cette maman qui allait son enfant dans un camp de réfugiés au Sahel? Comment faites-vous pour entrer en relation avec ces personnes qui souffrent?
Vous savez, quelquefois, on se fait un mauvais concept de la photographie. On imagine que la photographie, c'est un acte isolé, qu'on va en photographie, on est très malin, on connaît la lumière, on connaît les relations, on prend une photo, on s'en sort. Ce n'est pas ça, la photographie, c'est une façon de vivre. C'est un du matin au soir, on s'intéresse à une histoire. Cette histoire devient notre vie. Ces réfugiés en Afrique, j'ai passé 18 mois avec eux pour réaliser mes photos. J'ai vécu avec eux, j'ai habité dans les camps des réfugiés. Je les connaissais tous, je connaissais leur histoire. J'étais avec les médecins, les infirmières. On était tous ensemble dans un seul mouvement. Et à la fin, ce n'est pas vraiment le photographe qui prend la photo. Il reçoit la photo. Il s'intègre dans un phénomène. Il est parti de ce phénomène. Il reçoit, parce qu'il reçoit les photos qu'il fait, il les donne aussi une possibilité aux gens de s'exprimer avec les images.
C'est-à-dire que pour qu'on comprenne bien, la première fois que vous voyez ces gens, vous les voyez les mains dans les poches, vous n'avez pas d'appareil?
Non, j'ai un appareil avec moi, mais pas nécessairement je vais l'utiliser immédiatement. Il faut me présenter d'une certaine façon. Il faut que je sois introduit. J'ai jamais fait une photo sans une introduction. Il faut que les gens sachent que je suis là et pourquoi je suis là.
Toujours dans le domaine de la disparition et dans les photos qu'on peut voir de vous, il y a des photos de tribus amazoniennes, de gens qui vivaient probablement comme on vivait il y a des centaines d'années. Ceux, en fait, qu'on découvre, par exemple, lorsqu'on est français et qu'on lit Triste Tropique de Claude Lévi-Strauss. Quel effet ça fait de prendre des photos de ces gens-là qui vivent à la fois donc comme avant et qui sont menacés par ce progrès technique?
Je viens de rentrer dans l'Amazonie. Comme je vous ai dit, ça fait 4 ans que je travaille sur un projet sur les communautés indigènes dans l'Amazonie. La dernière tribu que j'ai travaillée, là je viens de passer presque 3 mois, j'ai travaillé avec 2 groupes. Le dernier groupe, il était contacté en 3 périodes, 1992, 2014 et 2015. J'ai travaillé avec des gens qui ont sorti de la forêt pour la première fois il y a 18 mois. Et vous savez, c'est pas très différent de nous. J'ai fait simplement une rencontre des gens qui ont pénétré en Amérique il y en a 16 000 ans et qui vivent comme je vis, qui sont des êtres humains comme je suis. Simplement, ils ne connaissent pas, soi-disant, les gadgets de notre société, mais ce que c'est de la solidarité. C'est que c'est de l'idée communautaire, c'est que c'est de l'amour, c'est que c'est des choses qui sont vraiment essentielles. On comporte tous de la même façon. Vous savez, ils sont aussi malins que nous qui vivons à Paris, au 3e millénaire, et à la fin, c'est nous d'il y a 10 000 ans. Mais on n'était pas très différents de ce qu'on est aujourd'hui, de ce qu'on était il y a 10 000 ans. On est les mêmes.
Ça, c'est une partie de votre travail, une partie importante, celle pour laquelle on vous connaît, mais vous avez fait beaucoup d'autres choses en photo, Sébastien Salgado. Par exemple, vous étiez là lors de l'attentat contre Ronald Reagan, vous l'avez photographié.
Oui, j'étais là, c'était mon premier voyage à Washington. Je venais de l'Australie, je faisais un reportage en Australie, j'ai passé par la côte ouest américaine, j'arrive à Washington, et le New York Times me demande de faire un portrait du président Reagan pour les 100 premiers jours du président Reagan. Et en arrivant là-bas, au 2e jour, on a eu l'attentat. Et pour moi, c'était très spécial. Pour moi, c'était un président qui, à l'époque, je considérais d'extrême droite, mais que c'était intéressant de venir le voir, d'être proche, de connaître cet homme, le plus puissant homme de la planète. Et je viens faire ce portrait pour le New York Times. Je devais passer avec le président une semaine, voler avec lui dans l'Air Force No. 1, que c'est l'avion du président, être à la Maison-Blanche, et quand l'attentat se passe au 2e journée, vous savez, au moment de l'attentat, j'ai fait mes photos. D'ailleurs, j'étais le seul photographe qui a pu vraiment m'approcher dans l'attentat et faire la série de photographies. Mais je n'avais pas la conscience que le président avait pris une balle et qu'il était logé proche de son cœur. J'ai une photo de Brady, l'assesseur de presse de M. Reagan. Une photo terrible. Au moment qu'il tombe, le sang vole de sa tête parce qu'il a pris une balle dans la tête et j'étais collé sur lui. J'ai toute cette série et étonnant parce que les photographes qui étaient là depuis des années, qui faisaient les petites conférences de presse, toutes les petites choses, ils n'ont pas eu l'opportunité d'être là. Et moi, première fois que je viens à Washington, ça se passe devant moi. C'est presque comme nous. Moi et ma femme, on a eu un enfant trisomique. La probabilité d'avoir un enfant trisomique, c'est 1 sur 1 000 000 de cas, des dizaines de milliers de cas, peut-être centaines de milliers, et on a eu notre enfant trisomique. Comme j'ai eu mon attentat. Quand j'étais là-bas, j'ai pu faire ces photos de cet attentat.
Quand vous avez pris la photo, vous ne vous rendiez pas compte qu'il s'agissait d'un attentat, Sebastião Salgado. Lorsque vous avez pris conscience juste après, à quoi pense-t-on lorsqu'on est photographe et qu'on est confronté à cela ?
Non, pas juste après. Au moment que je sors, parce que le président Reagan, l'attentat se passait à la porte d'hôtel Hilton de Washington. Il sortait. Moi, j'ai fait un grand tour pour être là parce que je n'étais pas des photographes qui étaient en poule. Quand je fais une photo, j'écoute les coups de feu. Je croyais que c'était des feux d'artifice parce que nos présidents en Amérique latine, en Afrique, quand ils sortent, il y a beaucoup de feux d'artifice. Mais immédiatement, les bruits des coups de feu sont très différents. Et j'ai immédiatement réalisé qu'on était en train de pratiquer un attentat. Et j'ai pu pénétrer dans le cercle de l'attentat et faire ma série de photos.
J'ai lu que le numérique était quelque chose que vous appréciez, notamment parce que cela vous a permis de raccourcir les temps de pause et aussi de travailler avec une faible lumière. Et on l'a dit, et on l'a répété, Sebastião Salgado, vous aimez photographier en faible lumière.
Vous savez, le numérique m'a permis de sauver des photos que j'ai perdues presque dans toute ma vie. C'est des photos à l'intérieur, à très basse vitesse. Aujourd'hui, le numérique me permet de travailler à très, très haute sensibilité et qui me permet une vitesse raisonnable intérieure. Mais le numérique, c'était plus que ça. Parce que j'ai travaillé avec les films, j'étais contre le numérique jusqu'au moment que j'ai essayé et j'ai vu qu'on n'investissait plus sur l'industrie des films, on investissait sur le numérique et que technologiquement, j'étais 10 fois meilleur qu'avant.
Et lorsque vous utilisez aujourd'hui un appareil numérique, est-ce que ça ne gâche pas votre plaisir? Parce que vous avez passé très longtemps, comme la plupart des photographes, à développer vos photos, à utiliser un agrandisseur, le fixatif, le révélateur. Ça vous manque pas tout ça?
Non, ça ne me manque pas tout ça parce que tout ça existe encore. La réalité, c'est qu'on confond la photo digitale avec l'image qu'on fait avec un téléphone ou des caméras digitales, que ce n'est pas la photographie. Ça, c'est un langage de communication qui s'appelle l'image. La photographie, on fait encore beaucoup de tirages, on fait beaucoup de branches de contact, on passe toute la journée pour le faire. Peut-être c'est un peu plus long de travailler sur le numérique qu'on faisait à l'époque où on travaillait dans la façon traditionnelle.
Et le fait qu'il n'y ait plus de pellicules, vous ne travaillez pas à la chambre, vous ne travaillez pas en grand format.
Non, je travaille au 35 mm.
Donc mais un petit format, c'est l'idée que finalement aujourd'hui on peut gâcher de la pellicule puisqu'il n'y en a plus. Est-ce que tout ça n'a pas changé votre pratique?
Non, parce qu'en réalité, j'ai produit une branche de contact à partir d'un archive digital. Et je ne peux pas trop photographier, sinon je ne pourrais plus l'éditer. Je ne sais pas éditer devant un ordinateur. Donc, ils me font d'une façon traditionnelle. Et une fois que j'ai édité mes photos, que j'ai fait ma sélection, on produit un négatif à partir de l'archive digitale, un très grand négatif de très haute qualité, et j'imprime à partir d'un négatif.